Bonsoir. Il peut être un peu étonnant d'entrer dans la Passion selon saint Jean la deuxième semaine de l'Avent, mais je vous propose de mettre en regard la feuille de traduction de Jean 18, 1, 27 et la feuille qui vous donne quelques points de repère, la sortie de Jésus, Jean 18, 1, 27. Nous allons nous contenter d'une lecture cursive en relevant les points qui me semblent les plus importants, les plus propres aussi à Jean, les plus spécifiques de ce récit de la Passion. En ayant bien entendu en mémoire tout ce qui précède, et en particulier le chapitre 17 dont nous sortons, si l'on peut dire, parce que, justement, il s'agit de ne pas sortir de cet état de prière où se trouve Jésus. Je crois que c'est un premier trait de génie du quatrième évangile que de nous faire entrer dans la Passion de Jésus à travers sa prière, dans sa prière, avec aussi en mémoire, au fond, les acteurs du drame. Le Père, le Fils s'est adressé au Père, il n'existe que dans sa relation à lui. Dans Jean 17, l'Esprit n'est pas mentionné, mais enfin, il est à deviner à travers beaucoup de termes, comme le don, la glorification, la gloire. L'un, le Fils et le Père ne font un que grâce à l'Esprit, mais comme c'est le grand discret, il n'est pas nommé. Et puis alors, les disciples présents et tous les disciples, les croyants, dont la foi dépend jusqu'aujourd'hui de ces premiers croyants. Le monde, sans oublier le mauvais et le fils de la perdition, que j'interprète pour ma part comme un synonyme de cet auteur du mal, de cette force mystérieuse de l'iniquité à l'œuvre, elle ne sera plus nommée désormais, mais nous savons qu'elle est bien présente et à la limite, c'est l'acteur, le mauvais, de cette condamnation de Jésus à mort. Cela nous fait donc un climat grave et en même temps, qui baigne dans la lumière d'une glorification déjà acquise. C'est peut-être le point sur lequel personnellement j'insisterai le plus, compte tenu de ce que l'on interprète la plupart du temps, la glorification comme étant liée aux événements qui vont nous être racontés de la Passion, de la mort et de la résurrection, alors que nous allons le voir alors sur pièce dans certains détails du récit, Jésus, au fond, est déjà retourné au Père. Il est dans sa gloire. Alors, je préviens tout de suite les Ignatiens et les Ignatiennes parmi nous, je crois que l'avoir déjà fait, n'est-ce pas ? Certains, et non des moindres, je pense au cardinal Vanois, avancent dans certains écrits que la Passion selon saint Jean ne se prêterait pas bien aux exercices spirituels selon saint Jean, parce que, dans l'optique ignatienne, la divinité se cache dans la Passion, alors qu'elle se révèle dans saint Jean. Oui, mais c'est à bien comprendre. Cette glorification, cette gloire du Fils est vraiment une gloire humiliée. Et nous allons voir que cette glorification ne le fait échapper en rien à toutes ces vicissitudes d'événements qui sont à la limite de la compréhension. Donc, il n'y a pas contradiction entre cette manière de comprendre la Passion de Jésus et la divinité qui se cache, parce que le Fils révèle un Dieu humble, pauvre, apparemment à la merci des événements alors qu'il les dirige de l'intérieur. Voilà, donc on est continuellement confronté à cette conciliation des contraires qui est le propre de la sagesse dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, et évidemment jusque dans le Nouveau. Trêve de préambule, ces choses les ayant dites, Jésus sortit avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Alors, vous avez aussi, dans le petit dossier que je vous ai remis ce soir, deux cartes qui peuvent nous aider à nous repérer dans les déplacements. Alors, la belle carte qui fait penser, comme on me l'a fait remarquer, à la maquette de Jérusalem que l'on trouve quand on va visiter Jérusalem, n'est-ce pas ? Là, vous la consulterez à votre aise, mais nous pouvons peut-être nous servir surtout pour l'itinéraire de Jésus de Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ. Donc, nous partons en 18.1 de ce qui est indiqué sur cette carte, Gethsémané, mais je ne partage pas le titre donné à ce nom de lieu, Jésus arrêté, c'est ce qu'on dit cependant souvent, l'arrestation de Jésus. J'intitule cette séquence « La sortie de Jésus ». Parce que le verbe revient à deux reprises. Nous venons de la rencontrer à la première reprise. Jésus sortit, Jésus sort. Voilà, c'est comme toujours, la symbolique spatiale chez Jean a toujours un sens à la fois réaliste et spirituel, théologique. Nous assistons à la sortie du Fils de ce monde vers le Père. C'est ce qui a été déjà suggéré dès le début du chapitre 13. Maintenant, cela s'effectue concrètement. Et donc, nous sommes au-delà du torrent du Cédron. La vallée du Cédron vous est bien signalé en blanc, là, n'est-ce pas, à hauteur de Gethsémani, au-dessus et au-dessous. Et le plus important, peut-être, c'est cette insistance sur le jardin. Le jardin, que l'on retrouvera aussi au jardin de l'ensevelissement. C'est la raison pour laquelle beaucoup étudient les chapitres 18 et 19 comme une unité, alors que, pour ma part, je préfère, selon le découpage du texte qui vous a été proposé dans l'organisation littéraire du quatrième évangile, relier intrinsèquement les chapitres 18-19 avec 20 et 21. 20 passe encore, 21 c'est un petit peu plus audacieux dans la problématique exégétique qui considère ce chapitre comme un ajout ultérieur, et qu'il ne le fait la plupart du temps pas entrer dans la structure d'ensemble. Or, je crois que c'est capital, le chapitre 21, est une sorte de reprise en contexte pascal de 6 en contexte de vie publique. Nous nous retrouvons là, au bord du lac de Tibériade, pour les pains et le discours eucharistique du pain de vie en 6, au bord du lac de Tibériade pour le petit déjeuner le matin à l'aube en contexte pascal, la troisième manifestation du Christ ressuscité. Donc nous lisons les chapitres 18 à 21 d'une seule venue, même si en effet il y a des éléments qui nous permettent, notamment la mention du jardin, de bien voir comment 18 et 19 sont déjà en eux-mêmes très articulés. Et jardin, ça vous fait penser à quoi, ça ? Eh bien, c'est évident, surtout que le chapitre, le prologue s'est ouvert sur « Au commencement, il y a la parole », qui est une évocation, pour ma part, indiscutable de Genèse 1.1. Voilà, quand même, il faut le faire. Avec la passion, nous entrons au jardin. Nous retrouvons Gan Eden, n'est-ce pas, traduit en grec et en latin, le jardin des délices. Il faut le faire quand même. Donc, une sorte de dédramatisation de la passion. Précisément, c'est un des arguments en faveur de la glorification déjà acquise. Et donc, nous entrons dans la réalité positive du dessein de Dieu de toujours à toujours. Grâce au Fils. La note, cependant, est grave, comme je le disais, non seulement parce que nous sommes aussi dans la nuit, mais parce que, au verset 2, il savait Judas, celui qui le livre, le lieu, parce que souvent il fut rassemblé Jésus là avec ses disciples. Donc, la présence de Judas se fait explicite et nous savons qu'il est le lieu d'une trahison dont il est jusqu'à un certain point responsable et jusqu'à un certain point disculpé parce que une force qui le dépasse le traverse. Mais cet insistant, Judas, ayant reçu la milice et d'entre les grands prêtres et les pharisiens des gardes, il vient là avec des torches et des lampes et des armes. On a pu dire, n'est-ce pas, il vient là avec, en quelque sorte, le décor des ténèbres représentées justement par torches et lampes, mais accompagnées d'armes liées à ces personnages qui sont à la solde la milice de l'occupant romain, des grands prêtres et des pharisiens, les autorités du temple et les autorités du Sanhédrin. Les deux autorités, on pourrait dire, n'est-ce pas, les grands prêtres, tout ce qui est lié au culte, les pharisiens, tendance plus laïque, qui est ordonnée à l'autorité jusqu'à un certain point civil, toujours un peu en réaction contre l'occupant romain. Donc les pharisiens se caractérisent par une force de résistance à l'occupant païen. Jésus, sachant donc toutes les choses qui venaient sur lui, traduction littérale, un peu rêche, mais enfin sachant tout ce qui lui tombe dessus, à la limite, n'est-ce pas ? Sorti, et voilà, en général, parce qu'il n'est pas bon, on a appris ça à l'école primaire et puis secondaire, de répéter trop souvent un même mot dans un contexte très rapproché, n'est-ce pas? Oui, mais si l'évangéliste prend la peine de vous répéter deux fois en quatre versets ce verbe, c'est qu'il veut attirer l'attention, justement. Il ne s'agit pas de vouloir se priver des moyens qu'il nous donne pour entrer dans sa perspective, et c'est une perspective bien particulière. Et on retrouve, c'est un des liens de ce début du récit de la Passion, le début du chapitre 13. C'est un élément de parallélisme entre le début des deux sections de la deuxième grande partie de l'Évangile. Et cette fois-ci, donc nous savons maintenant, la question est codée, c'est déjà le premier mot de Jésus au chapitre 1 à l'adresse des premiers disciples de Jean qui se mettent à le suivre. Que cherchez-vous ici? Qui cherchez-vous? Et c'est donc dans ces versets 4 à 9 que nous avons donc la première séquence de ce que j'appelle la triple révélation de Jésus, les versets 4 à 9, arrivant pratiquement au centre de cette première séquence. Qui cherchez-vous? Réponse: Jésus le Nazoréen, C'est déjà aussi un clin d'œil par rapport au titre de la croix, Jésus le Nazoréen, de Nazareth, mais avec la racine nazir, Nazar là derrière, n'est-ce pas, l'observant. Ce n'est pas simplement celui qui vient de Nazareth. Et si c'est uniquement celui qui vient de Nazareth, dans Nazareth on a aussi ce sens d'un village qui a quelque chose qui fait penser au nazir, au consacré au Seigneur. Jésus le Nazoréen. Le roi des Juifs, ce sera le titulus de la croix. Jésus le Nazoréen. Il leur dit, et alors, vous trouverez des traductions différentes en différentes langues, c'est bien moi, personnellement, je crois qu'il y a vraiment ici une insistance sur la reprise de cette manière dont Jésus se désigne depuis pratiquement le début de l'évangile, n'est-ce pas ? Enfin, ça arrive pour la première fois dans le dialogue avec la Samaritaine. Hein. Je sais qu'un Messie doit venir, qui nous révélera, qui nous fera connaître toutes choses. « Ego eimi ho lalun soi »« Moi, je suis qui m'adresse à toi, qui adresse la parole à toi. » Donc, c'est implicitement une citation tronquée. Jésus ne dira jamais le tétragramme, il ne se dira jamais « moi, je suis qui je suis ». Il est le Fils, donc il renvoie au Père et à travers, au fond, le nom de Dieu révélé à Moïse au buisson ardent en Exode 3,14. Et Judas revient, troisième fois qu'il revient. Il s'était tenu debout aussi, Judas, celui qui le livre avec eux. Alors voilà, hein, il le livre et en même temps c'est Jésus qui ne fait rien pour ne pas contrecarrer en quelque sorte cette trahison. Donc Jésus se livre lui-même, moi je suis, sans s'enfuir. Hein. Faut comprendre une subtilité là derrière, n'est-ce pas ? Et c'est là alors que personnellement j'interprète la scène qui est propre à Jean, du verset 6, lui-même central de ces versets centraux de la première séquence, comme une théophanie. Je ne suis pas le seul à le faire, mais je suis un des rares à mettre cette théophanie en rapport pour l'expliquer avec la glorification acquise. Voilà. Pourquoi tombe-t-il à terre ? Que s'est-il exactement passé, pour reprendre la question de l'exégèse critique ? Bien, je ne sais pas. Mais l'évangéliste veut nous faire comprendre ici quelque chose de très important. Justement, c'est Jésus en position de Dieu, mais qui abdique tout pouvoir de contrecarrer de quelque manière que ce soit les événements qui lui tombent dessus. De manière tout à fait arbitraire et injuste. Hein ? Comme donc il leur dit « moi je suis » et c'est repris explicitement, hein, ils s'éloignèrent vers l'arrière et ils tombèrent à terre. Donc il y a là comme une, bon, c'est pas une adoration, mais enfin c'est une manifestation de la manière dont l'humanité se situe par rapport à Jésus qui se révèle comme fils glorifié. Alors, on en a parlé encore tout à l'heure avec ceux et celles qui faisaient partie du débat. Il n'y a pas de transfiguration dans l'évangile de Jean. Il y a ici une théophanie, mais tout à fait, comment dire, paradoxale. Parce que, comme je l'évoquais il y a un instant à propos de cette divinité qui se cache, Jésus se trouve vraiment dans le pétrin, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Et il ne fait rien pour y échapper, alors que, bon, nous avons dans d'autres traditions, il pourrait appeler 12 légions d'anges, n'est-ce pas ? Il ne le fait pas. Donc, voilà, ce Dieu, Maître et Seigneur qui s'est révélé justement, comme nous l'a très bien dit Dominique Hernandez dans le chapitre 13, mais aussi dans le lavement des pieds. Ici, il est livré et il se laisse faire. Hein ? Donc, à la limite, on ne l'arrête pas. C'est lui qui arrête ceux qui mettent la main sur lui, n'est-ce pas? C'est une sorte de jeu, là, qui est à observer et à valoriser. Il répondit de nouveau, donc il les questionna, « Qui cherchez-vous ? » Donc c'est insistant, hein, c'est vraiment ce qui est composé autour de cette prostration des gardes envoyés par le pouvoir romain et par le pouvoir religieux juif. Ils dirent « Jésus le Nazoréen », deuxième fois aussi, il répondit « Jésus, je vous dis que moi je suis ». Donc voilà, il faut être aveugle pour pas, disons, enregistrer ce message. « Si donc vous me cherchez, moi, laissez cela partir. » Quand même. Moi, je ne m'enfuirai pas, hein. Bon, c'est moi que vous cherchez, d'accord. Mais alors, laissez les autres. Hein. Alors, rappel de Jean 17, 12, hein, afin que soit accomplie la parole qu'il dit, ceux que tu m'as donnés, je n'en perdis d'entre eux aucun. Et on voit de nouveau que, dans le verbe qui est employé, là, perdre, hein, c'est pas seulement laisser les partir de l'espace géographique où ils se trouvent, hein, mais laisser leur la chance du salut que j'opère en leur faveur. Hein. Ce que tu m'as donné, je n'en perdis d'entre eux aucun. C'est aussi une manière de rappeler implicitement sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Il n'est plus question ici du fils de la perdition, mais on sait qu'il en a été question à propos de, justement, tous ceux qu'il sauve sans en perdre aucun, hormis l'auteur même du péché. Et revient alors Simon-Pierre, ayant un glaive, le tira, il frappa le serviteur du grand prêtre, il trancha son lobe, c'est pas l'oreille. Il ne faut pas céder dans l'imaginaire là de la comment dire, de l'hémoglobine qui tombe dans la passion de Mel Gibson, n'est-ce pas, ou alors, rac, hein, et puis alors le sang qui coule, n'est-ce pas, non. Le lobe d'oreille droit. Le nom du serviteur était Malchus. Précision tout à fait johannique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors ça va pas. Il dit donc Jésus à Pierre, jette le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je sûrement pas. Voilà le Fils glorifié. Il reçoit tout du Père. La coupe, c'est la coupe de l'amertume, hein, c'est la coupe de la souffrance en général, dans les psaumes, chez les prophètes. Hein. Donc, comme j'y insiste toujours, jamais Jésus ne réagira à la violence par la violence. Sinon l'évangile s'écroule. C'est ça. Hein. Donc, l'enjeu est considérable, hein. Jésus ne répond pas au mal par le mal, il reçoit tout comme un don du Père, et il ne veut absolument pas que les plus proches, en particulier Simon, Pierre, dans ces deux noms, hein, l'ancien et le nouveau, j'ose dire, n'est-ce pas, et responsable, institutionnel, pourrait-on dire, des disciples, cède en quoi que ce soit à la violence. Il l'a fait, Jésus répare cette méprise. La milice donc et le tribun et les gardes des Juifs prirent avec eux Jésus et le lièrent. Et donc on retrouve, hein, le texte est admirablement composé, les partenaires de la première scène qui arrivait avec la milice et les gardes au verset 3. Donc un phénomène léger, mais quand même assez net, d'inclusion entre les trois premiers versets et les trois derniers de cette première séquence. Et voyez de nouveau, ils prirent avec eux Jésus et le lièrent. Il faut toujours lire le texte à des sens multiples, n'est-ce pas ? Prendre, c'est en général un verbe qui a quelque chose à voir avec le croire, n'est-ce pas ? Donc, ils entrent dans le jeu de Jésus jusqu'à un certain point, et en même temps, on voit ici le fameux Christ au lien, hein, ils le lièrent. Le Verbe incarné, glorifié, ligoté. La représentation picturale de ce visage de Jésus au lien, n'est-ce pas ? Voilà. Les versets suivants, que j'intitule « Le prix de l'unité », en médaillon entre la triple révélation de Jésus et le triple reniement de Pierre qui va arriver ensuite, rappelle une scène que nous n'avons pas eu le temps de voir, mais sur laquelle nous sommes revenus tout à l'heure dans le débat, à savoir la réunion du Sanhédrin après le retour à la vie de Lazare, et où se décide la condamnation de Jésus à mort, en particulier à l'instigation de Caïphe, grand prêtre de cette année-là. Il avait déjà émis une prophétie inconsciente liée à sa charge institutionnelle de grand prêtre. Alors qu'il n'y a plus de prophète, il prophétisa que Jésus serait cet un qui meurt pour le peuple. Simon-Pierre, ils le conduisirent donc auprès de Anne d'abord. Alors voyez tout le trajet, hein. Donc, Jésus a d'abord été au site traditionnel de la chambre haute pour le dernier repas. Hein ? Il a pratiquement fait le chemin en sens inverse pour se retrouver à Gethsémani. Et maintenant, alors, il se dirige vers la maison du grand prêtre, Jésus devant les grands prêtres. Donc, nous en sommes là de son itinéraire, alors que l'évangéliste ne vous dit rien de tous ces déplacements, n'est-ce pas ? Il suppose que vous connaissiez suffisamment la géographie de Jérusalem. Mais donc, ils le conduisirent auprès de Anne d'abord, car il était beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre de cette année-là. Or, si vous ne vous en souvenez pas, eh bien, Caïphe était celui qui conseilla aux Juifs qu'il convient qu'un homme meure pour le peuple. Donc, c'est aussi un rappel discret de la prière de l'un, hein. Un pour tous, un pour le peuple. C'est l'argumentation positive de Jean pour expliquer les événements de la Passion. Donc le verset 14 qui rappelle cet argument arrive véritablement au cœur de cette première séquence, en arrivant au cœur de ce médaillon entre 1, 12 et 17 à 27. Rappel du motif de la mort de Jésus, un pour le peuple. Or, il suivait Jésus Simon-Pierre et un autre disciple. Et alors, voilà enfin une prise pour une prise textuelle et on pourrait dire sociologique, historique, pour essayer de comprendre un peu qui pourrait être ce fameux autre disciple non nommé, dont il n'a d'ailleurs été question explicitement que pour la première fois au chapitre 13, dans les termes du disciple que Jésus aimait. Mais enfin, il y avait aussi un autre disciple issu des rangs des disciples de Jean qui s'était mis à suivre Jésus avec André, qui n'était pas le frère d'André Simon, mais quelqu'un qui reste dans l'anonymat. Et maintenant, on vous dit clairement les accointances de ce personnage anonyme, non nommé, avec non seulement le grand prêtre, mais au fond aussi toute l'institution sacerdotale du culte au temple, car c'est de cela qu'il s'agit. En sachant aussi que par ailleurs, jusqu'à présent et par la suite, cette population des grands prêtres n'a pas le beau rôle dans la Passion. Or ici, voilà, comme le disciple que Jésus aimait était la seule tache de lumière dans ce décor et cette atmosphère lourde de Jean 13, il apparaît ici aussi comme celui qui, sauve la mise du côté des disciples. Il était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Donc, nous sommes toujours là, Jésus devant les grands prêtres. Alors, qui est-il, ce fameux disciple qui a ses entrées dans la cour du grand prêtre, qui semble connu personnellement du grand prêtre? Alors, Jean, fils de Zébédée, pas totalement impossible. Il n'a pas été suivi, mais enfin, des derniers articles de Henri Cazel, qui est quand même pas le dernier exégète venu, ni n'importe qui, grand exégète de l'Ancien Testament à la Cato de la génération passée. Maintenant, les idées ont un peu évolué sur tout ce qu'il a pu écrire au sujet du Pentateuque, mais enfin, il avait attiré l'attention sur le fait que Zébédée, c'est le nom d'une famille sacerdotale dans l'Ancien Testament et dans les traditions rabbiniques. Et il ne serait peut-être pas totalement incongru de penser que, tout en étant pêcheur galiléen, dont il ne faudrait peut-être pas se faire une idée trop simpliste, il pouvait aussi avoir des accointances avec les milieux sacerdotaux du Temple de Jérusalem. On discutera de ces questions jusqu'à la fin des temps, et je crois que comme rien n'est vraiment démontrable, il faut respecter ce souci de l'auteur du quatrième évangile, qui peut-être se profile derrière ce monsieur, de disparaître à travers un certain nombre, enfin, dans une nébuleuse qui l'entoure, pour, au fond, essayer de comprendre que l'important n'est pas de savoir exactement qui il est, mais la fonction qu'il occupe, finalement. Et en rapport avec ce monde du temple, c'est ce qui, à mes yeux, explique la grande attention de tout le quatrième évangile depuis la première scène vraiment publique au temple, au chapitre 2, sur tout ce qui concerne finalement une théologie de type sacerdotal. Le fils n'est pas prêtre, le fils n'est pas le grand prêtre à la manière de Melchisédek comme dans l'Épître aux Hébreux. Il est le fils, mais en tant que fils, il a un rôle médiateur, sacerdotal, entre le Père et le peuple et l'humanité. Le triple reniement arrive donc maintenant dans les versets 18 à 27, pratiquement parallèle à la triple révélation des versets 1 à 12. Et ceci, rien que ceci, me semble déjà tout à fait remarquable. Dans la Bible, la désobéissance, l'incrédulité, le refus, le péché arrive toujours trop tard. Jésus s'est déjà révélé, il s'est manifesté comme le Fils du Père dans une glorification qui lui est absolument spécifique. Eh bien, seulement en un second temps et en contrepoint, nous avons alors ce reniement de Pierre sur lequel les évangélistes, les témoins, n'ont pas fait le silence. Et ça, c'est un critère de crédibilité historique de leur témoignage. Ils auraient pu dire, n'est-ce pas, n'en parlons pas, c'est pas très glorieux, c'est presque le contraire de la glorification, c'est un peu la honte, et donc à travers Simon-Pierre, la honte de l'Église, ben, pas du tout. Cela contribue à la glorification du Fils. Ça s'est passé comme ça. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Il sortit donc, tout ça c'est... Ouais. Il sortit le disciple, hein, comme Jésus sortit, donc il y a certainement des petites connotations là. L'autre le connut du grand prêtre, et il parla à la portière. C'est le cas de dire qu'il avait ses entrées, n'est-ce pas? Il connaissait pas seulement le grand prêtre, il connaissait aussi la portière. Et il introduisit Pierre. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Le grand prêtre, la cour du grand prêtre, tout ça c'est un peu tout ce qui met en cause le pur et l'impur, donc aussi la législation dans le cadre de la fête pascale, etc. Bon. Elle dit donc à Pierre, la jeune esclave, la portière, « T'es même pas toi aussi d'entre les disciples de cet homme ?»« Pouk eimi !» Alors ça, ça vous frappe, n'est-ce pas? Ego eimi trois fois pour Jésus, ou eimi trois fois pour Pierre. Et c'est comme ça que commençait le témoignage de Jean. Es-tu le Christ? Ou eimi. Donc, le chapitre 8 fait aussi le joint avec le chapitre 1. Hein. Donc, cet auteur écrit comme un orfèvre, n'est-ce pas? Tout ça, c'est extrêmement étudié. Ils s'étaient tenus debout, les serviteurs et les gardes, on les retrouve. Donc c'est un élément de parallélisme avec le début de la scène de 1 à 12, qui avait fait un feu de braise. On retrouvera ce feu de braise au petit déjeuner au bord du lac en 21-9. Petit clin d'œil au lecteur, parce qu'il faisait froid et il se chauffait. Il était aussi Pierre avec eux, s'étant tenu debout. Et se chauffant, se chauffe autrement que comme il devrait le faire. Enfin, il a froid aussi parce que je ne suis pas. C'est pas simplement je ne suis pas disciple de cet homme. Il y a dans le Okaimi, il y a une négation d'être. Le péché, parce que je crois qu'il y a là péché, est négation d'être. C'est ce qui fait la difficulté de le définir. Le péché n'est pas, il n'existe pas. Et quand nous péchons, nous n'existons pas. Donc, cependant, ça passe par nous. Mais enfin, voilà, il y a certainement un enseignement un peu subtil à bien intégrer. Et donc, au cœur de ce triple reniement, vous avez la comparution brève, rapide, de Jésus devant les autorités juives. Pourquoi est-elle si brève? Parce que les jeux sont faits depuis la vie publique, depuis les chapitres 7 à 12, et même avant, dès qu'il a guéri le paralytique, il a été condamné à mort, hein, pour blasphème et pour violation de la loi, et en particulier du précepte sabbatique. Et il n'a pas pu s'en dépêtrer. Hein. Il a essayé de se défendre à parole nue, et ça n'a pas marché. Donc ça peut aller vite maintenant. Hein. On peut passer assez rapidement, alors qu'on passera longtemps au prétoire avec Pilate. Le grand prêtre, il entre en scène explicitement, demanda à Jésus au sujet demandé, hein, c'est aetheo, au sujet de ses disciples et au sujet de son enseignement, sa Torah, hein, la didaké, la Torah de Jésus, ce qu'il a enseigné. Hein. Il a enseigné notamment dans la synagogue de Capharnaüm, son enseignement. C'est vraiment une réminiscence de la Torah. Mais c'est son enseignement, c'est sa Torah. Il lui répondit, Jésus, moi, publiquement, je me suis adressé au monde. Moi, toujours, j'enseignais en synagogue et dans le temple, ce qui montre bien qu'elles existaient, les deux institutions ensemble, hein, dès le temps de Jésus. Hein, c'est un indice intéressant du point de vue historique, où tous les juifs s'assemblent, hein, c'est l'assemblée, le kahal, l'ecclésia, hein, donc terme technique aussi, et en secret je n'enseignais rien, je n'adressais rien, et ce binôme en public et en secret, c'est ce qui traverse tous les chapitres 7 à 12. Voilà. Donc on reprend là toutes les controverses qui ont eu lieu, n'est-ce pas, et où Jésus a essayé de se disculper des torts dont on l'accusait. Pourquoi me demandes-tu ? Demande à ceux qui ont entendu que leur adresse, avec le verbe laléo qui a toujours une petite nuance de révélation en plus du verbe dire, legein, voilà, ceux-ci savent ce que je dis moi. Ce qui ne manque pas de pathétique puisque Pierre est là et qu'il ne dit pas justement ce que Jésus a enseigné. Ces choses les ayant dites, un qui s'était tenu auprès, debout, des gardes. C'est le verbe istemi hein, que je souligne là dans cette traduction. Des gardes donna une gifle à Jésus, ayant dit « Ainsi tu réponds au grand prêtre ». Et voyez, donc je mets ça en majuscule dans la typographie de la schématisation de la scène, parce que on voit bien que le grand prêtre arrive là au cœur. Voilà, donc le développement tourne autour des prêtres et grands prêtres, donc là, l'autorité religieuse du temple. Et alors voilà, aussi ça remarquable du point de vue justement de ce que notre ami Dominique Hernandez voulait nous faire passer de la manière dont Jésus se déclare le maître et le seigneur. N'est-ce pas ? Il ne s'écrase pas. Hein ? Il ne s'écrase pas. Si j'ai mal parlé, témoigne au sujet du mal. Si j'ai bien parlé, si j'adressais bien la parole, pourquoi me frappes-tu ? Ça, c'est le logos incarné. C'est la parole faite chair. Et nous savons quand même tous, il y a quand même une pédagogie, il y a une certaine catéchèse qui nous est communiquée là. La liberté de la parole en cas de conflit, rien de plus difficile. Ou bien vous vous enfermez dans un mutisme et vous tombez sans le vouloir, dans une violence plus grande que si vous ne vous taisiez pas. Hein. On voit ça tous les jours dans les comportements. Ou bien vous parlez, mais alors la parole risque d'être violente. Ici, elle est parfaitement maîtrisée. Hein. Libre, c'est une parole absolument sereine, en plein contexte de violence, de nouveau, hein, qui rappelle d'ailleurs le contraste entre Jésus et Pierre dans la séquence précédente. Il l'envoya donc Anne, liée auprès de Caïphe, le grand prêtre, et donc c'est ce qui vous fait parler de la maison du grand prêtre, mais de Jésus devant les grands prêtres dans la carte de Jérusalem à l'époque de Jésus. Donc ça a été très vite. Hein. Et au fond, il n'y a même pas eu de procès, parce que le procès a déjà eu lieu. Il y a eu comparution, mais pas du tout, enfin, interrogatoire, mais quand même réduit à la portion congrue. Et au font aussi un réquisitoire et un verdict extrêmement, tronqués. Alors, c'est ça qu'il faut observer aussi, n'est-ce pas? Parce qu'une question était posée tout à l'heure, et je le disais moi-même en rappelant Jean 17, les instigateurs du drame. Ne jamais oublier que c'est le mal qui est aussi à l'œuvre. Mais on ne vous le dira plus, il faut le deviner. Il faut le deviner derrière, bon, cette violence qui se déclenche de manière arbitraire, et puis alors, ce qui apparaît quand même comme une constante de ce fameux procès de Jésus devant les autorités juives et devant les autorités romaines, enfin, voilà, hein, nous en sommes souvent toujours là aujourd'hui dans le fonctionnement de nos institutions, la justice ne fonctionne pas. Elle devrait être au service de l'innocent injustement condamné. Non, elle fait le jeu des intérêts. Des intérêts à la fois, on pourrait dire, politiques et religieux. Hein? Parce que si on n'avait pas enrayé le mouvement de foule favorable à Jésus, les autorités juives craignaient la répression romaine, en particulier par rapport au temple. Mais la question n'est pas non plus d'accabler quiconque. La question est de se situer soi-même devant ce fonctionnement pervers des institutions. Et le problème n'est pas d'hier. Voilà. Or, il était Simon. Et on revient. Donc, on avait eu le premier reniement. Avec Jésus, ça avait été plus rapide, plus condensé, n'est-ce pas, les trois révélations au cœur de la séquence précédente. Ici, le triple reniement est aux extrémités, le cœur c'est de nouveau avec les feux braqués sur Jésus, n'est-ce pas. Il était Simon-Pierre, alors on reprend ici les deux noms, hein, l'ancien et le nouveau, toujours tenu debout et se chauffant, on y insiste, n'est-ce pas. Ils lui dirent donc, tu n'es tout de même pas il, donc c'est plus la petite portière, n'est-ce pas? Il, au fond, les protagonistes juifs de la scène, tu n'es tout de même pas toi aussi d'entre ses disciples, il nia celui-là et il dit, je ne suis pas. Donc de nouveau, hook eimi, l'assistance est notable. Et on voit ici, les deux, n'est-ce pas? Il nia et il dit. On ne redira plus, il ne redira plus une troisième fois, je ne suis pas. La troisième fois, simplement, au verset 27, il nia suffit. Il était Simon-Pierre, se chauffant, lui dire donc, tu n'es tout de même pas toi aussi d'entre ses disciples. Il nia celui-là et il dit, je ne suis pas. Il dit, un d'entre les serviteurs du grand prêtre, parent de celui dont Pierre trancha l'oreille. Vous voyez comment le texte est aussi extrêmement élaboré. On rappelle aussi la scène précédente. Ne te vis-je pas, moi, dans le jardin avec lui? Et donc, vous avez aussi, dès la première grande séquence, une inclusion entre le jardin au verset 1 et le jardin au verset 26. De nouveau, donc, il nia Pierre, et aussitôt, un coq, littéralement, Ephonesen, appela de la voix. Le coq, ce coq, n'est-ce pas? L'ami qui s'occupe des relations avec les Juifs m'ont dit, n'est-ce pas, au fond, le coq aussi, dans les traditions rabbiniques, c'est celui qui, au fond, rythme l'alternance du jour et de la nuit. Hein. Rappel très, très discret, là. Hein. Genèse 1, 5, commence par la distinction, le jour 1, du jour et de la nuit, de la lumière et des ténèbres. Alors, il y a là, sans doute, une réminiscence d'un, disons, d'un rapport au cosmos. Hein. Il y a une sorte de participation du monde créé à ce drame, non seulement du reniement de Pierre, mais de la passion. Et qui joue aussi quelque part dans le sens d'une dédramatisation. Hein. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, il y a aussi, il ne faut jamais perdre son humour, il y a quelque chose de comique là-dedans, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au moment où voilà, les choses ont l'air de s'écrouler dans l'abîme, non, toc, hein, cocorico, c'est pas le coq gaulois, c'est pas le coq liégeois, c'est le coq de la création, hein, la création qui est là. Le monde ne s'écroule pas, il tient. Nous faisons la pause maintenant, et alors à 6 heures, nous avons encore un gros travail avec la suite de ce récit de la Passion, la comparution devant Pilate et l'exécution. Voilà, je vous propose donc la même petite démarche pour la suite du texte que ce que je vous avais proposé pour les versets de 18:1-27. Vous prenez donc les indications intitulées « La déposition du roi dans son procès » 18:28-40 et en synopse, vous prenez le texte de 18:28-40. Qui est donc la première séquence de ce procès de Jésus devant Pilate, hein, qui prend beaucoup plus de place, précisément parce que, alors que le procès devant les autorités juives a jalonné pratiquement toute la vie publique et a déjà été conclu, presque sans appel, ici, devant les autorités romaines, eh bien, il y a quelque chose qui doit se développer à ce moment-là, en ces lieux et en ce moment et en ces lieux seuls. Et de nouveau, personnellement, je crois que les choses vont souvent par trois dans le quatrième évangile, sans rien forcer, mais en respectant les données du texte. Donc de nouveau, en quelque sorte, un tableau en trois séquences. La mise en situation, l'explication en tête-à-tête, première explication en tête-à-tête à l'intérieur du prétoire entre Pilate et Jésus, et enfin le premier dénouement. Et je me décale, je ne suis pas la division qui est maintenant souvent adoptée des sept scènes de la Passion, parce que ça ne correspond pas, me semble-t-il, à la manière dont le texte procède. Donc, je m'attache vraiment à des éléments formels que je vais souligner au passage pour, en l'occurrence ici, montrer à quel point la rencontre entre Jésus et Pilate à l'intérieur du prétoire est l'enjeu de cette première séquence. Ils conduisent donc Jésus à partir de Caïphe vers le prétoire. Donc, vous voyez le chemin vers Ponce Pilate. La cour du grand prêtre, c'était le décor de la scène du procès devant les autorités juives. Le prétoire, ça va être le lieu du procès devant l'autorité romaine incarnée par Pilate. Il était tôt. Voilà. Coq a chanté au moment où le soleil se levait. Donc, et je vous ai aussi donné dans les feuilles du dossier, là, donc des éléments précieux pour la chronologie de la Passion, n'est-ce pas, selon les synoptiques et selon Jean. Donc, cela nous permet aussi de suivre la chronologie des jours qui s'enchaînent. Eux, les Juifs, n'entrèrent pas dans le prétoire, parce que justement c'est un lieu païen et donc impur, afin qu'ils ne soient pas souillés, mais qu'ils mangent la Pâque. Hein, l'ironie est un peu dure, mais elle est à entendre. Hein, on veut garder une pureté rituelle en ne se rendant pas compte que Jésus est l'agneau de Pâques. Et sans aucune charge excessive contre les Juifs, mais pour faire apparaître quand même l'enjeu de ces scènes. Il sortit donc Pilate dehors auprès d'eux et il déclare. Et on retrouve alors le vocabulaire juridique que nous avions notamment rencontré lors de l'épisode de la femme adultère. N'est-ce pas ? Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? De quoi l'accusez-vous exactement ? Ils répondirent et ils lui dirent, s'il n'était pas celui-ci kakopoion, faisant le mal, un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Et alors j'attire votre attention sur la fréquence avec laquelle va arriver ce verbe livrer, ici au pluriel. Ici au pluriel. Nous ne te l'aurions pas livré, donc le sujet du verbe livrer, qui est le verbe de la trahison de Judas, hein, celui qui le livre. Hein, donc, voilà. Ici, il est au pluriel, avec comme sujet le premier pronom personnel de la première personne, des Juifs. Il leur dit donc, Pilate, prenez-le vous, et selon votre loi, jugez-le. Et ce n'est pas à prendre de mauvaise part, je crois qu'il veut faire, enfin, en même temps, il se débarrasserait d'une situation encombrante, en disant, mais non, c'est pas de mon ressort, faites jouer votre propre droit, hein, votre loi. Jugez, le verbe, justement, du jugement ici, dans le sens d'un procès, à la fois, pourrait-on dire, juridique, civil et religieux. Ils lui dirent donc, les Juifs, à nous, il n'est possible de tuer personne. Alors là, bon, ça c'est aussi évidemment un écho du décalogue, hein, tu ne tueras pas. Afin que la parole de Jésus soit accomplie. Donc voilà, ça c'est aussi un fil, n'est-ce pas ? Tout se passe selon l'accomplissement non seulement des Écritures, mais de la parole de Jésus. Ça a déjà été dit pour laisser cela partir, n'est-ce pas ? Il le disait afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dit. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Hein ? Afin que la parole de Jésus soit accomplie, qu'il dit en signifiant de quelle mort il était sur le point de mourir. Et alors voilà, donc les versets 33 à 38 sont les plus étalés. Je crois qu'il ne faut pas négliger l'importance du nombre de mots et de versets quand on divise un texte. Ici quand même, il y a disproportion entre cette scène-ci et les deux scènes qui encadrent et qui sont des scènes cadres, alors que celle-ci est vraiment... la scène qui délivre l'enseignement majeur. Il entra de nouveau donc dans le prétoire, Pilate, et il appela de la voix à Jésus, et il lui dit, c'était le même verbe employé pour le coq, et il lui dit, « Toi, es-tu le roi des Juifs ?» C'est ce qui l'intéresse. C'est pas la messianité, ça c'est pas de son ressort. Mais ce qui éventuellement mettrait en cause un titre royal de Jésus mettrait, disons, en difficulté, ou interpellerait sa propre fonction de préfet de la Palestine. Toi, es-tu le roi des Juifs ? Donc, de nouveau, anticipation du titre de la croix, n'est-ce pas ? Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Il répondit Jésus, Alors, de nouveau, on voit ça, le dialogue. Depuis le début de l'Évangile, tout est une question de rencontre dans le dialogue. Hein, parce qu'il est la parole faite chair et que tout se joue dans notre monde, dans notre humanité, dans les relations. De toi-même, toi, ceci le dis-tu ou d'autres te le dirent-ils à mon sujet ? Sommation à une parole personnelle. Je ne suis tout de même pas juif, moi. La nation. Alors, toujours un petit jeu de mots aussi, n'est-ce pas ? Laos dit le peuple dans sa dimension religieuse. Un pour le peuple. La nation, c'est ethnos. C'est la même réalité du peuple juif, mais selon sa dimension politique. De nouveau, la seule chose qui intéresse Pilate. Question religieuse qui engage la foi et le culte juif, ce n'est pas de son ressort. La nation, la tienne, et les grands prêtres, pouvoir, on pourrait dire, politique et religieux, te livrèrent, deuxième fois, te livrèrent. Et alors ici, de nouveau, ce sont les autorités juives qui sont en cause, te livrèrent à moi, au pluriel. Que fis-tu ? Le royaume, le mien, n'est pas de ce monde. On a déjà vu cela à plusieurs reprises. Être de, c'est appartenir à. C'est... Si de ce monde il était le royaume, le mien, voilà, on avait vu ça au moment de la sortie de Jésus, les gardes, les miens combattraient afin que je ne sois pas livré aux juifs. Et ici, troisième mention du verbe livrer, mais au passif avec Jésus comme sujet. En réalité, le royaume, le mien, n'est pas d'ici. Ce recours au royaume est rare. Nous l'avons vu deux fois seulement dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, et nous avions vu à ce moment-là à quel point Jean préfère à la terminologie des synoptiques du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, la vie éternelle. L'enjeu du royaume, c'est la vie éternelle pour Jean. Ici, cependant, la question du royaume revient parce que c'est l'enjeu de la discussion à l'intérieur du prétoire entre Jésus et Pilate. Es-tu le roi des Juifs ? Et vous pensez bien que on a réfléchi à ces choses depuis toujours. Justement, quelqu'un comme saint Augustin a attiré l'attention sur le fait que, voilà, ce n'est pas parce que son royaume n'est pas de ce monde qu'il n'est pas non plus dans le monde. Et ça, la prière de Jean 17 le disait, n'est-ce pas ? Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. En tout cas, on voit bien s'amorcer ici une distinction qui est propre à Jésus et au christianisme par rapport au judaïsme entre le religieux et le politique. Ça s'amorce ici, ça va se jouer dans le mystère pascal, mais enfin le mystère pascal, il s'amorce dès maintenant. Ainsi donc, roi, tu l'es, toi. Donc c'est ce qui l'intéresse, c'est de nouveau la reprise de la question du début, et non plus avec le roi des Juifs, mais roi, est-ce que t'es roi ? Toi, tu dis que je suis roi, moi. Moi, pour ceci, j'ai été engendré, c'est le fils monogène qui parle, l'unique engendré du Père, il a été engendré, et pour ceci je suis venu dans le monde, on retrouve la distinction du monde et dans le monde, afin que je témoigne à la vérité. Il a dit en 14-16, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Je témoigne à la vérité qu'il est en personne, mais enfin qui n'exclut certainement pas, là je prends mes distances par rapport à la grande thèse du père de la poterie que j'avais eu comme professeur jadis, n'est-ce pas, qui disait non, la vérité aletheia dans genre rien à voir avec la vérité grecque aristotélicienne, l'adéquation de l'intelligence et de la chose. Ah, non, je crois, non. Tout qui est de la vérité entend ma voix, c'est pas limité à la mentalité sémitique et juive. Tout qui est de la vérité, universellement parlant, entend ma voix. Semences de vérité qui sont répandues dans toutes les religions et de toutes les cultures du monde, et quiconque est de la vérité, relève de la vérité, cherche la vérité, appartient à la vérité, entend ma voix. L'expression qui revenait pour le bon pasteur par rapport à ses brebis, et il a à en ramener... qui ne sont pas de ce troupeau, de ce bercail. Donc c'est, voilà, prétention universaliste à la vérité de Jésus comme incarnant, en tant que parole, verbe, fait chair, la vérité de Dieu et de l'homme. Et alors, on dit, enfin, je ne pense pas que ce soit simplement une dérision. On voit Pilate est un homme qui hésite, n'est-ce pas? Alors on dit souvent, qu'est-ce que la vérité? Il envoie bouler, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qui est vérité? La question est pertinente à mon sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est vérité? C'est un homme qui est tiraillé par ces questions-là. Mais en tout cas, il va à trois reprises, comme il y a eu trois reniements, il va se récuser. Ceci l'ayant dit de nouveau, il sortit, donc on voit bien, dehors encadre dedans, il sortit auprès des Juifs et leur dit, moi, aucune cause de condamnation, je n'en trouve en lui. Quelle accusation au verset 29? Eh bien, moi, je n'en trouve aucune de cause d'accusation. De condamnation, plutôt. Accusé, c'est catégoréine. Condamné, c'est catacrinaine. C'est pas exactement la même chose. On avait vu ce champ sémantique du procès et du jugement juridique, n'est-ce pas, à propos aussi de la femme adultère. De cause de condamnation, moi, je n'en trouve aucune en lui. Il est de coutume pourvu qu'un homme, je vous en libère dans la Pâque. Souhaitez-vous donc que je vous libère le roi des Juifs? Et alors voilà, ça c'est simplement en particulier pour les historiens ou les historiennes parmi nous, ça c'est une question qui fait difficulté. On ne voit pas ailleurs qu'ici cette coutume de relâcher quelqu'un dans le monde de Jésus à cette époque pour la Pâque. Alors, c'est pas parce qu'on n'en parle qu'ici que c'est faux, mais voilà, c'est ce qui embarrasse un peu les historiens qui étudient le texte, et en tout cas, il ne faudrait pas penser que ça va de soi. Ils s'écrièrent donc de nouveau en disant, non celui-ci, mais le Barabbas. Il était le Barabbas, un brigand. Donc, il y a certainement un jeu de mots là-dessus. Barabbas, en araméen, ça veut dire fils d'un père. Donc, il préfère ce fils d'un père au fils unique du père. Ça, c'est certainement une sorte de sous-entendu. Premier volet, la déposition du roi dans son procès. Il n'a quand même rien fait pour se faciliter la besogne, Donc, il a beau hésiter, Pilate, mais enfin, jusqu'à présent, le compte est bon. Il n'y a pas... Alors, maintenant, nous entrons, et vous prenez de nouveau les feuilles en synopse, la séquence qui, à mes yeux, est la séquence principale du procès devant Pilate... Et je la mets à l'enseigne du pouvoir d'en haut du roi des Juifs. Ce sont donc les versets 19, 1, 22. Et personnellement, à la différence de beaucoup de commentateurs, je ne peux pas couper le texte définitivement de ce procès devant Pilate avant l'exécution de la sentence que nous voyons alors dans les versets 16b à 22. Donc, la scène centrale, c'est donc bien celle-ci du procès devant Pilate, 19.1 à 16a. Alors, voyez, là, les indices formels sont quand même assez forts. C'est le seul endroit, hormis le chapitre 13, où les éléments de temps sont aussi bien attestés. Alors donc, il prit Pilate Jésus, renvoie au terme en 16a, alors donc, exactement, tote un, il le leur livra afin qu'ils soient crucifiés. Fameux verset qui, en 97, avait fait la une de l'actualité avec les émissions sur Arte, Corpus Christi, n'est-ce pas ? C'est donc le moment où va se décider le sort de Jésus. Et de nouveau, cette sorte de jeu de mots, n'est-ce pas ? Il prit Pilate Jésus, voilà, qui, verbe prendre, a souvent un sens d'adhérer dans la foi, n'est-ce pas ? Alors voilà, il y a une sorte de je crois, de flou là qui est entretenu. Il le fouetta, c'est à bien comprendre, c'est un factitif, comme on dit, il le fit fouetter, parce que Pilate ne va pas s'abaisser à régler le compte de la flagellation de Jésus, n'est-ce pas ? Le sens, c'est il le fit fouetter, et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, ils la posèrent sur sa tête, et d'un vêtement pourpre, ils l'entourèrent, et ils venaient auprès de lui et disaient, Chaire, salut, hein, salut de l'ange Gabriel à Marie, hein, dans Luc, réjouis-toi, salut, le roi des Juifs, et il lui donnait des gifles, ben, il en aura reçu hein, depuis le début de notre séquence. Bon. Alors, pour beaucoup, cette scène des outrages, comme on dit souvent, est centrale dans les sept séquences qui se passeraient de manière très symétriquement distribuée, entre les scènes en dehors et à l'intérieur du prétoire. Pour moi, personnellement, je n'adhère pas à ce découpage et je vois cette scène des outrages comme, au contraire, la première scène de l'épisode central de ce procès. Et donc, ça commence mal. Ça commence mal parce qu'enfin, si on le fait fouetter, si il reçoit ses attributs dérisoires d'une royauté de pacotille, hein, c'est quand même que les choses sont en train de très très mal tourner. Il sortit, vous voyez, on voit bien cette alternance. Là, c'est intéressant, hein, on ne sait pas très très bien où se passent ces versets 1, 2 et 3. Sorte d'indétermination, de no man's land, là, voilà. On ne sait plus très bien où on est. C'est ça l'idée, n'est-ce pas ? C'est tellement dans une mascarade que... Pff, voilà. Tandis que là, il sortit de nouveau dehors Pilate et il leur dit... Il n'a pas été dit qu'il était de nouveau rentré. Hein ? Il va rentrer un peu plus loin, mais voilà. Et il leur dit, je vous le conduis dehors afin que vous connaissiez qu'aucune cause de condamnation, je ne l'en trouve en lui. Donc c'est insistant, n'est-ce pas ? Il sortit donc Jésus dehors, portant l'épineuse couronne. Hein, il a la couronne d'épines qui devient une épineuse couronne. Hein, il y a... Et le pourpre vêtement pourpre, pourpre vêtement, donc il y a une sorte de travelling avant, on dirait, en langage cinématographique, sur ces revêtements de Jésus, n'est-ce pas ? Et il leur dit, Ecce homo, voici l'homme. Idou, ho, anthropos. L'homme par excellence, hein, c'est pas simplement l'accusé. C'est vraiment une révélation de l'homme. Hein. Dans sa grandeur et sa grandeur humiliée. Enfin, l'homme, la révélation, on pourrait dire, d'Adam. On me demandait tout à l'heure si Christ n'était pas le nouvel Adam. Il n'est pas le nouvel Adam, il est l'Adam en vérité, l'Adam réalisé dans cette situation-là. Quand donc ils le virent, les grands prêtres et les gardes s'écrièrent, disant « Crucifie, crucifie !» Ah ben, je comprends, n'est-ce pas si on se sert de ça, en contexte, pourrait-on dire laïcisé, sécularisé, hein, pour alors se retourner contre les Juifs, ça peut être terrible. Hein. Ça peut prêter le flanc alors à ce contentieux énorme entre chrétiens et juifs dans l'histoire. Donc il faut être prudent et en même temps, on ne peut pas lénifier, on ne peut pas... contourner le texte, n'est-ce pas? L'évangéliste, bah, alors, j'ai encore trouvé ça sous la plume de commentateurs récemment, n'est-ce pas? C'est pas possible que les grands prêtres et les gardes aient pu dire cela. Hein, c'est une manière chrétienne de se dédouaner sur les Juifs par rapport aux autorités romaines. Oh ben là je suis encore moins. Et je ne pense pas que ce soit conforme au témoignage des évangélistes qui, comme nous l'avons vu, ne veulent absolument pas, en quelque sorte, se tirer d'embarras. Hein. Non, lisons le texte. Il leur dit, Pilate, prenez-le, vous, et crucifiez, car moi, je ne trouve pas en lui de cause trois fois. Voilà. Hein. Ils lui répondirent, les Juifs, nous, une loi nous avons, et selon la loi, il doit mourir parce que, fils de Dieu, il se fit lui-même, je pense, vraiment, en toute sincérité et honnêteté intellectuelle, que c'est le point. C'est le point sur lequel on peut discuter avec les Juifs, mais pas de ça. Ça va pas. Hein? Un Messie typiquement juif, à la manière dont Boyarin écrit son bouquin sur le Christ juif, d'accord, mais... La dimension proprement divine de Jésus comme fils du Père, ça passe pas. C'est ce qui fait vraiment... Alors justement, c'est comme dans le dialogue avec les musulmans, on va pas commencer à parler de la Trinité, parce que ça va coincer tout de suite, n'est-ce pas? Donc, mais je pense personnellement que là, l'évangéliste, mais à charge pour nous de rester très, très, très chrétien dans la lecture de l'évangile, n'est-ce pas? Nous dit que c'est vraiment là que le bât blesse. Nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce que fils de Dieu, il se fit lui-même. C'était déjà le premier chef de condamnation en 5-17, avant le discours sur l'œuvre du Fils, dont Jésus n'est jamais parvenu à se débarrasser. Non, pas maintenant. Quand donc il entendit Pilate cette parole, il craignit davantage. On ne sait pas pourquoi on dit, il craignait pas jusqu'à présent. Il craignit davantage et il entra, il craignit, c'est-à-dire ça veut dire il est pris de peur là, il est pris aux tripes. Hein. Il entra dans le prétoire de nouveau et il dit à Jésus, d'où es-tu, toi? Donc de nouveau. Et c'est dans cette deuxième scène à l'intérieur du prétoire que les choses les plus décisives vont se jouer, parce que c'est précisément la séquence centrale. D'où es-tu? L'origine. Nous savons depuis le prologue qu'il est la parole de l'origine. Au commencement, il y a la parole. Hein? Or, Jésus de réponse, il ne lui en donna pas. Donc, voilà. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. À moi, tu n'adresses pas la parole, ne sais-tu pas ? Alors, accrochez vos ceintures, parce que c'est là que ça se corse. Hein ? Pouvoir j'ai de te libérer et pouvoir j'ai de te crucifier. La fameuse question du pouvoir, l'exousia. Hein ? Alors, on peut hésiter, autorité. Ça, depuis le prologue, pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est un renvoi implicite au Fils de l'homme de Daniel 7. Hein ? Donc, Jésus, va devoir répondre de cette question qu'un homme s'arroge d'une toute puissance. Hein ? Pouvoir de te libérer, pouvoir de te crucifier, pouvoir de vie et de mort. Alors là, il ne se tait plus. Là, il répond. Mais c'est le verset le plus difficile de la Passion, à mes yeux. Comme le verset 12 était le plus difficile de Jean 17. Alors c'est là qu'il faut justement à la fois bénéficier de tout le travail antérieur et nous préciser sur la portée exacte de ce verset. Tu n'aurais pas de pouvoir contre moi, aucun, aucun. Donc, mise en question, contestation radicale. Hein ? Aucun pouvoir. Si cela ne se trouvait donné à toi d'en haut, c'est au présent que c'est dit, c'est pour ça que je le rends de cette manière-là. Si cela ne t'était pas donné à toi d'en haut, ça c'est la doctrine de la sagesse dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme, tout pouvoir est un pouvoir d'intendance, de délégation, parce que le seul à disposer du pouvoir absolu, c'est Dieu. C'est très clair, en particulier dans le livre de la sagesse. Seul Dieu est roi en Israël, seul il a le pouvoir. Et c'est un pouvoir spirituel, c'est pas d'abord un pouvoir politique. Mais enfin, il y a aussi une dimension politique dans l'intérieur des institutions du peuple élu. Et le pouvoir est donné d'en haut. Donné, c'est un don, hein ? Et il est donné d'en haut. On retrouve être engendré d'en haut. Dans le dialogue avec Nicodème en Jean 3, donc un pouvoir délégué par Dieu à une personne dont il doit rendre compte à Dieu. C'est ça l'idée, n'est-ce pas ? Donc contestation de tout totalitarisme politique et religieux. Mais alors, le verset rebondit, à cause de ceci, celui qui me livra, et voilà pourquoi j'attirais votre attention sur les différentes occurrences du verbe livrer, c'est pour essayer de résoudre les problèmes qui se posent à propos de 11b, n'est-ce pas ? À cause de ceci, celui qui me livra à toi, un plus grand péché il a. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là ? Alors je vous évoque rapidement quelques éléments du dossier, enfin pour un certain nombre d'exégètes, dont par exemple l'éminent collègue jésuite de Saint-Mola, traducteur de la Bible, de Jean dans la Bible de Jérusalem, et donc grand connaisseur de Jean, et d'autres. Ce singulier aurait une valeur collective et renverrait d'abord aux autorités juives qui ont livré Jésus à Pilate et donc aussi à Pilate puisqu'il est impliqué. Ah ben non, là je vois pas. Et les exemples, je ne veux pas vous entrer dans trop de discussions, mais les autorités juives ont été mentionnées au pluriel et il n'y aurait aucune raison plausible à passer ici à un singulier collectif. Donc, je pense personnellement que, au singulier, commençons par cela, hein, il y a trois problèmes. Le sens de « à cause de ceci », donc le rapport entre 11b et 11a, la portée, l'identification de celui qui me livra à toi, et qu'est-ce que je veux dire ? Un plus grand péché, il a. Hein ? Alors, pour commencer par celui qui me livra à toi, à mon humble avis, c'est l'indicatif de Judas depuis le chapitre 6, verset 70. Hein ? Donc, oui, mais attention, là, il faut vraiment avoir la mémoire du texte. Dans le chapitre 13 et dans le chapitre 17, il y a eu tout un travail de l'évangéliste pour bien distinguer le traître de celui qui opère en lui la trahison. Et Dominique Hernandez avait très bien attiré l'attention sur n'est-ce pas, le début du chapitre 13 à ce sujet. Donc, le chapitre 13 distingue, comme d'ailleurs toute la littérature biblique, et en particulier la littérature prophétique, le mal de celui qui le commet, le péché du pécheur, pour condamner le péché, pour sauver le pécheur. Double dimension du jugement. Jugement de condamnation du mal, parce qu'il détruit la personne. Jugement de salut pour le pécheur, parce qu'il n'est jamais complètement conscient du mal qu'il commet. S'il en était ainsi, il ne le commettrait pas. C'est une sorte d'optimisme anthropologique biblique et juif. Donc, à cause de ceci, c'est-à-dire à cause du pouvoir qui ne peut être donné que d'en haut, et on a bien vu dans le chapitre 13 qu'il est donné à travers la bouchée à Judas de perpétrer la trahison. C'est une trahison sous contrôle de don. C'est encore par un don qu'il peut faire ce qu'il fait. Quand même. Alors, pas facile à comprendre, mais enfin, il y a quelque chose là qui est un peu subtil, pour révéler la dimension spirituelle du mal. C'est pas disons, une faute morale, c'est pas une lacune psychique, n'est-ce pas ? C'est voilà, ce qui engage la foi. Et celui qui me livra à toi, dans ce contexte-là, ne laisse aucun doute, ce n'est pas davantage Judas que au moment où nous nous expliquions sur le fils de la perdition en 17-12, c'est l'auteur du péché. Et alors on comprend, un plus grand péché il a, c'est lui qui porte l'ultime responsabilité de la mort de Jésus. Et la question n'est pas de savoir finalement qui des autorités juives ou romaines porte la responsabilité de la condamnation à mort de Jésus, ils sont dupes des manigances du mal en eux. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne des gens du passé il y a 2000 ans, c'est une dimension de l'existence dans la foi qui concerne tout croyant aujourd'hui. Sinon, on tombe, comme on l'a encore dit tout à l'heure dans le dialogue, dans le débat que nous avons eu avec certains, n'est-ce pas, dans la recherche du bouc émissaire. Et la recherche du bouc émissaire, c'est se dédouaner soi-même sur quelqu'un d'autre. Ah non, je dois moi-même, dans la lecture de l'Évangile, me sentir interpellé par celui qui a livré Jésus et qui perpètre le plus grand péché. Ce n'est pas un autre que moi, ce pourrait être moi. Et donc je dois me laisser interpeller dans ma propre responsabilité pour ne pas faire le jeu de l'ennemi, comme disent les règles de discernement spirituel élémentaires que nous trouvons dans de grandes spiritualités. Je rappelais tout à l'heure, n'est-ce pas, parce que j'en ai fait allusion dans les livres sur les épîtres de Jean, il y a un magnifique texte du frère François de Thésée qui s'interroge finalement, n'est-ce pas, sur les conditions de l'assassinat de Roger Schütz à Thésée. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben, d'abord, il souligne le fait, n'est-ce pas, que cet homme est mort à cause de sa bonté même. Hein. Il était tellement fraternel, tellement accessible, que pour quelqu'un d'un peu dérangé psychiquement, à un certain moment, ça devenait insupportable. et il a été éliminé. En tout cas, c'est le type de raisonnement que l'on a dans le procès des impies et des justes dans les premiers chapitres du livre de la sagesse, n'est-ce pas ? Donc, et ça éclaire directement ce qui se passe en Jésus. Jésus a été insupportable dans l'exercice de sa bonté pour tous. En particulier, quand il s'agit de condamner, il n'a jamais condamné personne. Et en cela, il est la lumière du monde. Mais si le monde fait son jeu d'incrédulité, il cherche à supprimer la lumière. Et cependant, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne la saisissent pas. C'est ça qui... Et alors, donc, dans ce cas-là, de nouveau, il n'y a pas un pécheur qui est jeté en enfer, parce qu'enfin, porter un plus grand péché, c'est quand même fort, n'est-ce pas ? C'est quand même être l'objet du contraire du salut. Hein, voilà. Donc, il faut éviter ce que l'Église n'a jamais fait, d'envoyer quiconque en enfer, mais il faut se garder soi-même du mal, parce qu'il rôde tout le temps. Donc, c'était le point principal de cet exposé. Je viens de publier justement dans ce livre Rediscovering John, dans les mélanges de Frédéric Mans à Jérusalem, toute une contribution à ce sujet. De ceci, alors ça commence à grincer là, hein, parce que d'abord on peut se demander si Pilate n'a pas entendu cette parole pour lui. Enfin, à cause de ceci, celui qui me livra à toi un plus grand péché, il a. Bon, c'est pas de moi qu'il s'agit, dit Pilate, hein, s'il entend ça. Mais en même temps, de quoi s'agit-il ? De qui s'agit-il ? C'est la question inéluctable. Il cherchait à le libérer. Les Juifs s'écrièrent, si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Tout qui se fait roi s'oppose à César. Ah oui, alors voilà, il joue son poste là. Hein. Oui, ça c'est. Pilate donc, ayant entendu ces paroles, conduisit dehors Jésus. Donc malgré tout, vous voyez, tout ça c'est encore dans une sorte de climat assez intime. Conduisit dehors Jésus et alors là, dans grande discussion, ça se trouve encore dans la dernière traduction de la Tobe et je n'y adhère pas. On veut faire de ce s'installa un factitif aussi. Il fit installer, il fit s'asseoir Jésus sur une tribune. Hein. Oui, mais ça ne va pas, ça. Parce qu'alors, c'est de nouveau mettre Jésus en position de juge, ce qu'il a contesté du début à la fin. Hein. Non, je pense que c'est bien... On ne voit pas très bien Jésus s'installer sur le prétoire. Hein. Il n'y a qu'un petit Colombien à pouvoir faire ça en s'installant sur le siège du pape quand il est à Rome, n'est-ce pas ? Bon, alors, on ne voit pas Jésus s'installer sur la tribune de Pilate au prétoire. Ça va. Non. Même contraint et forcé, je crois que... je ne peux pas. Il conduisit dehors Jésus, il s'installa sur une tribune parce qu'il est justement en position, lui, de juge, malheureusement de juge inique, vers un lieu dit Litos Protos en hébreu Gabbata, c'était préparation de la Pâque, l'heure était environ la sixième, l'heure de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine en Jean 4. Donc c'est l'heure de l'immolation de l'agneau pascal pour le repas pascal, pour le repas de la fête de Pâques. C'était préparation, la parachève, parasquée. Et il dit aux Juifs, et ça coïncide, hein. Voici l'homme, voici votre roi. Enlève, crucifie-le. Ça reprend évidemment les vociférations du verset 6. Et attention, hein, ne renchérissons pas, ne lisons pas ces textes comme portant à la violence, ça peut être redoutable. Il leur dit, Pilate, votre roi. Le crucifierai-je ? Est-ce que vous vous réalisez un peu ? Enfin, donc, c'est, de nouveau, n'est-ce pas ? Le Pilate en question, il est conscient quand même de ce qui se passe, n'est-ce pas ? Ils répondirent, les grands prêtres, nous n'avons pas de roi sinon César. Ce qui est évidemment à la limite blasphématoire. Hein. Et donc, voilà, est-ce qu'ils ont dit ça? En tout cas, voilà, l'Évangile nous fait nous débrouiller avec ça. Nous n'avons pas de roi sinon César, prononcé par les grands prêtres, c'est évidemment très, très, très lourd. Mais en tout cas, disons, cela montre bien une sorte de collusion du pouvoir religieux juif avec le pouvoir du collaborateur romain. Et alors, n'est-ce pas, ces émissions auxquelles je faisais allusion, Corpus Christi, voyaient dans le verset 16a, hein, et en particulier dans le petit pronom « leur », hein, alors donc, il leur livra afin qu'ils soient crucifiés, le fondement de la mort de millions de juifs dans l'histoire. Rien que ça. Mordiaï prieur. Hein. Bon. Alors, c'est évidemment une lecture que je ne partage pas, mais enfin, elle a été publiée, elle a été aussi, n'est-ce pas, diffusée largement. Toute confession confondue, catholique, protestant, juif, etc. On dit oui, enfin, il n'y a aucun doute, et même un éminent catholique, professeur à l'Institut catholique, dit oui, non, ça, Origène a déjà entendu ce verset de tous les juifs, de tous les temps. Alors, quand j'ai consulté mon ami Michel Fédou, qui est un bon connaisseur d'Origène, lui dit donc, est-ce que tu verrais un texte où Origène dirait que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus pour tous les temps et pour toutes les latitudes? Non. Non, simplement. Alors, il leur livra. Le verbe revient pour la dernière fois dans ce contexte. Et donc, implique Pilate dans l'acte de livrer Jésus aux Juifs afin qu'il soit crucifié. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ben, tous coupables. C'est ça l'enseignement, n'est-ce pas? Si c'est le mal qui met à mort le Fils de Dieu, comme personne d'entre nous, hormis un seul homme dans le monde et dans l'histoire, a été exempt du péché, nous sommes tous impliqués. Et la question est de savoir de quel côté nous nous mettons, du sien ou du côté de ses bourreaux. Et ça, c'est un discernement permanent que le texte nous invite à développer. Eh bien, il nous reste maintenant 10 minutes pour les versets conclusifs. Et voyez, personnellement, je ne peux pas dissocier le procès et finalement la condamnation de Jésus de l'exécution de la sentence. Alors là, il y a vraiment aussi des présupposés herméneutiques qui jouent, n'est-ce pas? Je pense que c'est pas possible. Et que cela, alors, si on coupe à 16, on est gêné pour la suite, non seulement du chapitre 19, mais de l'enchaînement avec les chapitres 20 et 21. Or, nous allons être maintenant au seuil, avec les versets 19, 23, 42 que je laisse pour la fois prochaine, au cœur de la passion et de la mort et de la résurrection de Jésus, les trois panneaux qui vont expliciter la scène de la mort formelle de Jésus en croix, propre à Jean, sert vraiment littérairement et théologiquement de pivot entre la passion et la résurrection. C'est, je crois, simple et lumineux. Encore faut-il le favoriser pour arriver à ce type d'interprétation. Et alors, première nouvelle surprise, ils accueillirent donc Jésus avec le verbe, n'est-ce pas, paralambano, paré la bonne. Ils accueillirent Jésus. Alors là, la suite va expliciter ça. Mais enfin, voilà, il faut en quelque sorte, justement, n'est-ce pas, ne verser dans aucune lecture lénifiante de ce texte âpre, hein, et en même temps être attentif à toutes les possibilités qu'il nous donne de nous ajuster dans un regard de foi à un événement à nul autre pareil. Chargeant sur lui la croix, on ne la lui met pas sur le dos, il la porte comme un signe de victoire. Hein, c'est très répercuté dans la littérature théologique et spirituelle, chez les Grecs, chez les Latins, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Jésus portant sa croix, lui-même, de sa propre autorité, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? De sa propre responsabilité, dans un acte de liberté suprême. Ah, c'est conforme à tout ce qui est dit depuis Jean 13, en particulier. Il sortit. Ah, voilà, on assiste enfin à la sortie. Il y a eu différentes tentatives, n'est-ce pas ? Il sortit au début du chapitre 18, et puis maintenant il sortit vers le lieu dit du crâne, qui est dit en hébreu « Golgotha ». Alors vous l'avez aussi, hein, sur, on a passé tout un trajet là, n'est-ce pas ? On sort de la ville maintenant, parce que un condamné de ce type ne peut pas être mis à mort dans les murs de Jérusalem, n'est-ce pas ? C'est un signe d'impiété, d'impureté, d'infidélité à la loi. Là où lui, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, ici et ici, au milieu, Jésus. En position, on pourrait dire médiane, on pourrait dire même médiatrice. Milieu, il est le milieu, hein, pas au milieu, c'est Jésus. Il écrivit aussi un titre, le fameux titre, je crois que c'est une sorte, en grec, n'est-ce pas, je vérifie aussitôt, titlon, hein, c'est une sorte de latinisme, hein, parce que ça vient du titulum latin, le titre. Très étudié, conservé, notamment à la Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome, n'est-ce pas ? Un titre, le titulum. Et il le posa sur la croix, il était écrit. Et alors voilà, hein, ça c'est un peu le point d'aboutissement de tout ce que nous avons vu depuis la triple révélation en moi je suis. Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs. Voilà. Au lieu de se déchaîner, ce qui ne serait absolument pas conforme à notre identité chrétienne, la violence contre les Juifs à cause de ça, au contraire, n'est-ce pas, le regard de Jean nous impose de voir en tout Juif son roi. Ce titre donc beaucoup le lurent des Juifs, et voilà. Dimension maintenant universaliste du salut par la croix. C'est ça l'idée, n'est-ce pas ? Parce que proche était le lieu de la ville, là où il fut crucifié Jésus, et il était écrit en hébreu, littéralement, en romain, en grec. Donc les trois grandes langues du bassin méditerranéen qui expriment la dimension universaliste de l'événement dans le contexte limité, finalement, hein, de ce bassin méditerranéen. Surtout que, pour l'époque, on voit ça dans les Actes des Apôtres, Rome, c'est le bout du monde, hein, par rapport à Jérusalem, du point de vue à la fois culturel et aussi géographique. Il disait donc à Pilate, les grands prêtres des Juifs, n'écris pas le roi des Juifs, mais que celui-là dit, roi, je suis des Juifs. Il répondit Pilate, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Donc, ce qui est remarquable là, c'est surtout dans tout ce contexte de la passion, du quatrième évangile, la corroboration de l'écrit par rapport à l'oral. Ce que j'ai écrit, et donc cela nous permet, pour les quelques minutes qui me reste, de valoriser la schématisation des trois sous-unités telles que nous les avons parcourues de 19.1 à 19.22. Il y a donc les deux grandes séquences centrées sur les deux conversations en tête-à-tête entre Jésus et Pilate, ce qui pose évidemment une question historique. Il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas d'enregistreurs. Alors, il y a une construction d'évangélistes, ça c'est sûr. Mais là, je crois qu'il faut vraiment entrer dans une lecture d'un texte qui vraiment est aussi une confession de foi et qui ne prétend absolument pas au nom de sa foi déroger à la vérité historique. Au contraire, tout ce qui a été dit, alors on n'a pas eu le temps de le faire, de le lire, mais sur l'esprit qui rappellera tout ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, qui a un rôle de mémoire et d'enseignement, en particulier dans le deuxième grand passage sur l'esprit, cet auteur ou ces auteurs, on ne saura jamais très bien, qui finalement a codifié la version ultime, la version définitive du texte canonique, l'important c'est le texte canonique dont nous disposons, vraiment organise son donné à la fois historique et théologique pour faire passer un message de foi dont il prétend certainement être, responsable devant la vérité et des hommes et de Dieu. Donc, les choses essentielles sont prononcées dans le prétoire, avec grande discrétion d'ailleurs, ce qui est aussi une manière de rester soi-même très discret là-devant et de ne pas se servir de ce texte à des fins qui seraient absolument contraires à l'Évangile. Séquence beaucoup plus brève, où se dénoue le drame par l'exécution de la sentence. Ce n'est pas encore terminé, parce qu'à la limite, le plus beau, le plus grand reste à voir, c'est-à-dire la manière même dont Jésus meurt. Et ce sera pour la prochaine fois.